Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 19 juin 2018, en direct de Washington. Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'adresse prévue du président Joseph Kabila devant le Parlement suscite de nombreuses attentes à 6 mois des élections.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales ont débuté hier.
Au Nigeria, révision à la hausse du bilan des attentats meurtriers de ce week-end dans l'état de Borno pendant la fête de l'Aïd el-Fitr.
Ici à Washington, le président Donald Trump a juré de ne pas laisser les États-Unis devenir, je cite, « un camp pour migrants ».
Et l'actualité sportive, ce sera bien sûr le journal de la Coupe du Monde.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, allocution attendue du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en Congrès, alors que l'opposition et l'Église catholique le soupçonnent toujours de vouloir briguer un troisième mandat en décembre prochain. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM de notre station partenaire à Kinshasa.
C'est ce mercredi 20 juin que s'ouvre au Parlement une session extraordinaire qui sera notamment marquée par l'adresse à la nation du président Joseph Kabila. Une adresse à 6 mois des élections qui suscite de nombreuses attentes tant le chef de l'État, dont le mandat constitutionnel s'est officiellement achevé depuis décembre 2016, n'a jamais voulu dire clairement, comme le lui demandent souvent ses opposants, qu'il ne briguera pas un troisième mandat, se contentant de rassurer qu'il respectera la Constitution. Cette session extraordinaire sera également marquée par l'examen du projet de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Initié par le sénateur Modeste Mutinga, un soutien à Moïse Katumbi, le projet de loi sur le statut des anciens présidents élus garantit la sécurité de l'ancien président élu, de sa famille ainsi que de son patrimoine. Au plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh-Tundu, de retour de Luanda lundi soir après un tête-à-tête avec le président Lorenzo sur le processus électoral en RDC a démenti la tenue annoncée par la presse le 17 juin dernier d'un sommet des chefs d'État sur la République démocratique du Congo, le qualifiant même d'un sommet fantôme. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales ont débuté hier. C'est un engin politique avant les élections locales de cette année et la présidentielle de 2020. Le point avec Morgane Guériec.
La commission électorale indépendante affirme que 3 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales qui comptent actuellement 6,3 millions d'inscrits. Les opérations de recensement vont durer une semaine jusqu'à dimanche sur 10 580 sites à travers tout le pays. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a appelé les Ivoiriens à ne pas se faire enrôler. Elle estime que la CEI est composée de manière déséquilibrée en faveur du pouvoir. Le BDCI, membre de la coalition au pouvoir, souhaite aussi une réforme de la commission électorale avant la présidentielle de 2020. Des élections municipales et régionales couplées sont prévues cette année, mais la date du scrutin n'a pas encore été dévoilée.
La force militaire constituée par 5 pays du Sahel pour lutter contre les djihadistes et le crime organisé a porté des coups aux passeurs de migrants, mais les financements promis tardent à être débloqués. C'est ce qu'a déploré hier à Bruxelles le ministre nigérien des Affaires étrangères. La force du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, est devenue une réalité, même si tous les financements n'ont pas été versés, a déclaré Kala Ankuraho lors d'un point de presse avec la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Le Niger assume la présidence tournante du G5 Sahel.
En Gambie, 2 jeunes hommes ont été tués hier par la police lors d'une manifestation de villageois contre un site d'extraction de sable qui, selon eux, pollue les rizières environnantes. Ces heurts qui ont eu lieu à Faraba Banta ont fait également plusieurs blessés. Dans un communiqué, le bureau de l'inspecteur général de la police a tenu à préciser qu'il n'avait pas autorisé le recours à des armes à feu et qu'il mènera une enquête sur les circonstances de cet événement. Et il a lancé un appel au calme.
Dans le nord-est du Nigeria, révision à la hausse du bilan des attentats qui ont ensanglanté la fête de l'Aïd el-Fitr ce week-end à Damboa, dans l'état de Borno. 43 personnes ont été tuées, selon un dernier bilan annoncé hier. Le point avec Bagassi Koura.
Un premier bilan faisait état de 31 morts. D'après Komi Wakil du gouvernement de l'État de Borno, 43 personnes ont perdu la vie dans les attentats qui ont touché ce week-end la ville de Damboa. 12 blessés très graves ont été acheminés par hélicoptère à Maïdougouri, la capitale régionale. Les attaques suicides ont été perpétrées par 6 fillettes âgées de 7 à 10 ans alors que les habitants célébraient la fin du Ramadan. Des djihadistes présumés ont ensuite visé avec des roquettes et des grenades la foule qui s'était précipitée peu après les premières explosions. Meta Collard, coordonnatrice humanitaire des Nations Unies, a condamné hier ces violences, appelant les autorités d'Abuja à prendre des mesures renforcées pour la protection des civils. Elle a ajouté que près de 8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans les États les plus touchés du Borno, d'Adamawa et de Yobe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a juré que les États-Unis ne deviendront jamais, je cite, un camp pour migrants, ni un centre de rétention pour réfugiés. Malgré le tollé suscité par la politique de son administration séparant des enfants de leurs parents sans papier à la frontière avec le Mexique. Lors d'une intervention à la Maison-Blanche hier, M. Trump a souligné que ce qui se passe en Europe ne se passera pas aux États-Unis tant qu'il sera président.
Et de son côté, le ministre américain de la Justice a défendu hier la politique de tolérance zéro de l'administration Trump à la base de cette pratique concernant les enfants et leurs parents sans papier. Jeff Sessions assure vouloir éviter l'anarchie dans le pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Nous ne voulons pas séparer les enfants de leurs parents, mais nous ne voulons pas non plus que des adultes amènent leurs enfants illégalement, mettant ces enfants en danger. A déclaré hier Jeff Sessions devant l'Association nationale des shérifs à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Pour le ministre de la Justice, la question est de savoir si nous voulons être un pays de loi ou si nous voulons être un pays sans frontières. L'administration Trump a révélé vendredi que sa nouvelle politique de tolérance zéro a conduit depuis mi-avril à la séparation de 2000 enfants de leurs parents arrêtés pour être entrés illégalement aux États-Unis. Cette pratique a déclenché de vives critiques de l'opposition démocrate et de l'ONU. Même Melania Trump, la très discrète première dame, a dit détester voir des enfants séparés de leur famille. Et jusque-là, au Congrès, républicains et démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une réforme des lois d'immigration.
L'extrême droite du gouvernement allemand, soutenue par Donald Trump, a fixé hier un ultimatum de 2 semaines à la chancelière Angela Merkel pour réduire au niveau européen le nombre d'arrivées de migrants ou prendre le risque d'une crise politique majeure. Les précisions avec Irénée Herman-Humbo.
Les 2 semaines qui viennent s'annoncent décisives et compliquées pour Mme Merkel. Elle doit trouver une solution satisfaisante, à la fois pour ses alliés bavarois et pour l'Italie ou la Grèce qui réclament une répartition équitable des demandeurs d'asile en Europe. Horst Schirhofer, son très conservateur ministre de l'Intérieur, prévient qu'il serait prêt à refouler immédiatement les migrants arrivant aux frontières allemandes si la chancelière ne parvient pas à une solution d'ici le sommet de l'Union européenne prévu les 28 et 29 juin. Angela Merkel a de son côté promis de tout faire pour trouver des accords bilatéraux et européens sur la question. Cependant, elle a rejeté l'ultimatum assurant qu'il n'y aura aucune fermeture de la frontière allemande aux demandeurs d'asile en cas d'échec de ses efforts. La chancelière doit s'entretenir aujourd'hui avec le président français Emmanuel Macron et Jean-Claude Juncker, patron de la Commission européenne.
La Chine a dénoncé ce qu'elle a appelé un chantage et menacé de prendre des contre-mesures appropriées si les États-Unis imposent, comme ils le menacent, de nouvelles taxes douanières sur les produits chinois. Le président Trump a demandé hier au représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, d'identifier 200 milliards de dollars de biens chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10%. M. Trump a expliqué que cette décision était en représailles à la décision de Pékin d'imposer des tarifs douaniers sur des produits américains d'une valeur de 50 milliards de dollars après que les États-Unis ont fait la même chose concernant des produits chinois d'une valeur équivalente.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui à Pékin, moins d'une semaine après sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump à Singapour, ont annoncé les médias d'État chinois. Il s'agit de son 3e séjour en Chine en moins de 3 mois. Kim Jong-un cherche à obtenir un assouplissement des sanctions économiques en échange de ses promesses de dénucléarisation et espère le soutien de la Chine dans cette démarche.
L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, espère une reprise en juillet des négociations de paix alors que des milliers de personnes continuent à fuir les combats dans la ville portuaire de Hodeïda. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Maintenant, nous passons au sport avec le journal de la Coupe présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde. Le dernier pays africain entre en lice aujourd'hui. Il s'agit du Sénégal de Sadio Mané qui nourrit de grandes ambitions mais qui doit d'abord affronter la Pologne de Robert Lewandowski. Le sélectionneur des Lions de la Teranga mesure l'importance de cette première sortie de ses poulains. Aliou Cissé.
L'essentiel effectivement pour nous c'est ce match de demain. On s'est bien préparé. Maintenant, rentrer dans une compétition, le premier match, tout le monde le sait, c'est important. Même si ce n'est pas décisif, c'est très important. Donc nous avons envie de rentrer dans cette compétition par la belle des manières, c'est-à-dire faire un meilleur résultat, un bon résultat contre une très belle équipe polonaise. Le Sénégal, tout le monde connaît, on fait partie en tout cas des meilleures équipes africaines. On a des arguments à faire valoir, donc nous venons ici avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. Donc ce n'est pas une question d'individualité, donc on est ensemble avec cette équipe depuis 3 ans. Chaque joueur, je les connais, vous pouvez me faire confiance, il y aura une très belle équipe.
Aliou Cissé qui s'exprimait au micro d'Amdine Si, notre correspondant présentement en Russie. Le Sénégal revient en Coupe du Monde 16 ans après sa dernière participation réussie en 2002. L'un des artisans de ce mondial réussi de 2002 pense que le sélectionneur doit miser sur le collectif qui a fait la force des Lions de la Teranga en 2002. Écoutons El Hadjouf.
L'équipe du Sénégal a des très bons joueurs. Maintenant, l'essentiel c'est de trouver la cohésion. Une équipe qui joue ensemble et qui peut avoir des résultats positifs ensemble. Pour quelqu'un qui a joué au football, qui a participé et qui connaît le métier de ce sport, on ne gagne pas tout seul. Les individualités sont importantes quand on les met dans le collectif. Et je crois que c'est ce qui nous manque encore. On a de très bons joueurs, mais maintenant, est-ce que les joueurs, on les met dans les meilleures conditions? C'est pour ça que je demande encore à l'entraîneur de voir ce système, de faire plus confiance aux joueurs et surtout de leur donner la carte libre de jouer et de s'épanouir sur un terrain de football. Parce qu'on a des joueurs, quand on les laisse jouer, ils seront les meilleurs joueurs au monde.
C'était donc El Hadjouf, ancien international sénégalais. Dans l'autre match de ce groupe H, toujours ce mardi, la Colombie jouera contre le Japon à midi temps universel et à 18h, l'Égypte fera face au pays hôte, la Russie, pour sa deuxième sortie dans cette compétition. Hier, Harry Kane a crucifié la Tunisie. Un doublé de l'attaquant de Tottenham a sauvé in extremis l'Angleterre du piège face à la Tunisie. 2-1. Le capitaine anglais a sauté plus haut que tout le monde dans les arrêts de jeu 90e minute plus 1 pour délivrer les 3 Lions jusque-là incapables de se défaire des Tunisiens accrocheurs. Kane avait aussi ouvert le score à la 11e minute avant l'égalisation tunisienne par Sassi sur pénalty à la 35e. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Pour la 4e sortie d'une équipe africaine dans ce mondial russe, la Tunisie était venue avec la ferme intention d'inverser une tendance jusque-là négative, avec 3 défaites, aucun but marqué par les ambassadeurs du continent. En Afrique, la Tunisie a la réputation de produire le football le plus proche de celui joué de l'autre côté de la Méditerranée. Un bon équilibre entre la technique latine et le cynisme tactique à l'italienne, alternant des défis physiques et des phases créatives au-dessus de la moyenne, qui font de cette équipe la bête noire de toutes les formations d'Afrique du Nord. Dans l'incontestable opposition de style qu'ils ont eu à affronter contre une équipe anglaise renouvelée depuis l'Euro 2016, les Aigles de Carthage ont miraculeusement desserré l'étau installé par la jeune garde britannique autour des Kane, Sterling et autres Rashford, en particulier en fin de première mi-temps. Mais les Tunisiens sont aussi connus pour leur travers habituel, celui de préférer la posture de réaction à celle d'action, tout l'attentisme observé en seconde mi-temps, alors que les Africains, qui avaient récupéré la possession du ballon, se sont contentés de faire courir les Anglais prenant des risques avec des rétropasses qui vont attirer les chasseurs de buts britanniques dans la zone fatale. Tout ce deuxième but assassin d'Harry Kane au temps additionnel. La Tunisie est punie par là où elle a pêché. Il ne reste plus qu'au dernier de cordée, le Sénégal, à en tirer les leçons.
Toujours hier, la Belgique a fait craquer 3-0 le Panama qui disputait le premier match de Coupe du Monde de son histoire. Romelu Lukaku a inscrit un doublé en quelques minutes, 69e et 75e. Auparavant, Dries Mertens avait ouvert le score d'une superbe volée lobée à la 47e, bien avant. La Suède, pas attendue en tête du groupe F, est pourtant bien première de ce groupe après sa victoire 1-0 devant la Corée du Sud. Voilà, c'est tout pour le journal de la Coupe du Monde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les agents du ministère des Finances ont repris ce lundi leur mouvement de grève qui doit durer toute la semaine. Une situation qui joue sur l'économie du pays car les impôts, par exemple, sont mal collectés. Et le gouvernement a décidé lors d'un conseil des ministres extraordinaire de recruter des volontaires et des retraités pour remplacer les agents qui sont en grève. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Mathias Kadiogo, porte-parole de la coordination des syndicats du ministère des Finances du Burkina Faso.
Il y a 7 points pour quels points on a ajouté 2. Il y a une question sur les retirées de cotisations syndicales mutualistes sur des avantages minimum de motivation financière des travailleurs. Il y a la question de la dotation de carburant, la question du respect des protocoles d'accord signés entre les syndicats et le gouvernement et de part des partis et qui peinent à être appliqués. Nous avons la question du relogement des travailleurs du ministère qui sont au sein du ministère dans le bâtiment R+4 que le gouvernement n'a toujours pas retiré. Nous avons la question des réformes, la transformation de la question des impôts et de la douane en été. Voilà, que le gouvernement refuse de laisser tomber. Le premier point que vous venez d'ajouter concerne la remise à leur poste des personnels qui assuraient des fonctions de société et qui ont été relevés pour faire des grèves.
Les agents qui ont été relevés sont des agents qui ont été nommés par le gouvernement, qui a donc le droit de les relever.
Oui, le gouvernement a le droit de les relever et le gouvernement a le devoir aussi de les nommer parce que ce sont des agents qui n'agissent pas sur un terrain politique, ils sont sur un terrain technique. Et ils occupent des responsabilités techniques. Et ils n'ont fait que faire usage d'un droit fonctionnel qui leur a accordé le droit de grève. Il n'y a aucune disposition dans l'administration burkinabé qui interdit un responsable nommé d'aller en grève pour défendre ses intérêts professionnels.
Et il y avait une conférence nationale la semaine dernière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas apporté vos points de revendication à cette conférence-là?
Bon, nous avons estimé que le format voulu par le gouvernement et ne nous convenait pas. Et nous avons fait nos observations et nos propositions au gouvernement qui a décidé de prendre en compte. Nous estimons qu'il n'est pas logique et il n'est pas judicieux pour un employeur d'asseoir des personnes qui n'ont rien à voir avec les employés pour discuter de la rémunération de ses employés. Quand on assoit des activistes de la société civile à des agriculteurs, des religieux, des coutumiers pour discuter des rémunérations des agents de la fonction publique, vous imaginez ce que ça fait, ça nous donne du chagrin.
La dernière information qu'on reçoit, c'est que le gouvernement a décidé de faire des recrutements de retraités et de volontaires pour vous remplacer. Si vous continuez la grève.
Mais c'est un non-événement parce que les agents qui refusent de travailler, ils observent leurs droits constitutionnels de grévé. Donc, si le gouvernement estime que les retraités sont encore opérationnels, ce qu'on a laissé pour qu'ils aient se reposer, si du coup, selon le gouvernement estime qu'ils sont opérationnels et qu'ils peuvent relever de ceci, avec qui les avancent sur le terrain. Nous sommes là et nous pensons que le gouvernement a le devoir de prendre des mesures qui vont consolider la cohésion sociale au Burkina Faso.
Mathias Kadiogo, porte-parole des syndicats du ministère burkinabé des Finances.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Bénin, le problème des délestages persiste bien que le président Patrice Talon eut promis pendant sa campagne électorale de le régler définitivement en moins de 2 ans. Selon notre correspondante sur place, une solution pourrait venir des énergies renouvelables. Le Millennium Challenge Account Bénin, à travers un important financement américain, s'active déjà sur le terrain pour une électrification hors réseau des ménages et autres qui le désirent. Précision de Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Au Bénin, les populations peinent toujours à se connecter comme il le faut au réseau conventionnel de fourniture d'électricité. Conséquence, beaucoup continuent de se plaindre de ces coupures intempestives qui peuvent durer 12 heures par jour.
Actuellement, je suis en train de travailler, il y a coupure, il y a ma télévision qui est gâtée.
Vous avez une facture de 60 000 francs maintenant qui a été déversée, alors qu'avant, lorsque la coupure n'était pas, c'était déjà 60 000.
Le Bénin, à l'instar de bien du pays de la sous-région, dispose d'un climat favorable à la promotion des énergies renouvelables. Pour placer Sid Clédio, climatologue, enseignant-chercheur à l'Université du Bénin, les énergies renouvelables restent la seule chance pour le Bénin de vaincre la crise énergétique qui résiste à toute stratégie.
Notre politique énergétique doit être accentuée sur les énergies renouvelables. Et c'est la chance pour l'Afrique aujourd'hui d'être expert maintenant dans les énergies renouvelables pour dépasser les autres. Dans le soleil et à partir de nos déchets, on peut produire maintenant le gaz. Nous avons aussi l'énergie éolienne qu'on peut vraiment exploiter.
À l'ouverture d'un récent atelier international, sur les énergies renouvelables, plusieurs acteurs du secteur ont rappelé que seulement 5% des Béninois des zones rurales ont accès à l'énergie électrique, pendant que ceux des grandes villes se battent contre les méfaits du délestage sauvage. Et c'est en cela que le Millennium Challenge Account reste une aubaine avec son projet d'électrification hors réseau. Les premières installations solaires au Bénin remontent à plus de 20 ans. Plus besoin de sensibiliser les populations sur la nécessité de recourir à ce type d'électrification. D'ailleurs, le secteur engendre déjà assez de personnes formés pour répondre aux besoins du marché à travers l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique. C'est le cas de ces jeunes femmes déscolarisées, femmes au foyer et vivant dans le nord du Bénin et qui, avec le soutien des Nations Unies, ont bénéficié d'une formation qui fait d'elles des spécialistes en matière d'installation de panneaux solaires et autres. Ismaïla Raminezoumenou, présidente de l'ONG Fitin Rinda.
Elles ont négocié des contrats auprès de ménages non électrifiés et elles ont déjà installé des systèmes solaire domestique. Au cours de leurs travaux pratiques, les filles ont eu à dépanner tous les lampadaires de la ville de Parakou. Elles ont eu également à démarcher des clients qui sont des ménages non électrifiés où elles ont installé aussi des kits solaires de 150 watts crête. Donc, je peux dire déjà que ces filles sont déjà totalement opérationnelles.
Le Millennium Challenge Account encourage l'implication du secteur privé pour l'amélioration du réseau électrique. Il faut préciser que les États-Unis envisage investir 46 millions de dollars dans le secteur de l'énergie hors réseau au profit des Béninois dont l'accès à l'électricité reste toujours un parcours du combattant. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Guinée a envoyé du personnel médical en République démocratique du Congo à la demande de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et pour Dikonakri, renvoyer l'ascenseur à ce pays qui fait face à la 9e épidémie d'Ebola de son histoire. Mais à Conakry, on suit de très près la situation en RDC 2 ans après la fin de l'épidémie dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient fait plus de 11 000 morts, dont 2 500 en Guinée. Reportage à Conakry de notre envoyé spécial Abdourahman Dia.
Conakry, la capitale guinéenne, s'est relevée du pire épisode de son histoire récente. La ville veut oublier Ebola et peu de gens veulent même prononcer le mot. Le marché de Kaloum, juste après la pluie, grouille de monde comme d'habitude. Ce jeune qui a accepté de nous parler nous dit que les habitants ont changé leurs habitudes grâce notamment à la sensibilisation.
Oui, les populations aussi sont là à respecter les règles d'hygiène. Que ce soit l'hôpital, que ce soit le marché, même les gens sont là prêts à quand même à suivre de près. C'est une maladie qui est tellement virale, ce n'est pas facile. Mais c'est le fait que c'est éradiqué là. On ne veut plus maintenant que ça se récidive encore en Guinée.
Et cette bataille contre le retour d'Ebola, elle est dirigée par un homme. Le docteur Sakouba Keïta, que l'on surnomme ici Monsieur Ebola, le directeur du Centre national de sécurité sanitaire, nous dit que son pays a appris de cette première épidémie qui a sévi pendant plus de 2 ans.
Il n'y a pas une préparation
qu'on peut faire d'un jour à l'autre, mais nous continuerons à nous préparer au fur et à mesure qu'on a de nouvelles connaissances sur cette maladie. Nous continuerons à nous préparer afin que, si même elle survenait en Guinée, qu'on puisse la circonscrire en un temps record. Parce que la RDC, à sa 9e, et la Guinée n'a reçu qu'une seule épidémie. Donc nous pensons qu'il y a des probabilités que cette maladie revienne en Guinée et nous nous préparons en conséquence.
En Guinée, plus de 8000 personnes ont été vaccinées contre Ebola. Ce même vaccin non encore homologué par l'OMS et utilisé en République démocratique du Congo. Mais pour le docteur Sakuba Keita, son efficacité ne fait pas l'ombre d'un doute.
Non seulement nous on assure l'efficacité sur le plan épidémiologique par sa contribution à l'arrêt de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée, mais aussi par la publication des résultats des scientifiques qui ont déjà publié cela et montré que ça a une efficacité autour de plus de 95%, ce qui fait qu'aujourd'hui ce vaccin est en première ligne dans nos activités, dans nos mécanismes de riposte contre cette maladie.
Les autorités sanitaires guinéennes sont en état d'alerte et le pays semble mieux préparé en termes d'infrastructures. Les travaux d'agrandissement de l'hôpital Donka de Conakry battent leur plein. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Ici aux États-Unis, la politique de tolérance zéro à la frontière avec le Mexique suscite un tollé. L'administration Trump reconnaît que 2000 enfants ont été séparés de leurs parents, arrêtés pour être entrés illégalement sur le territoire américain depuis la mi-avril. L'administration Trump insiste sur le fait que les familles concernées sont des sans-papiers. Mais au micro de Morgan Guiriec, Bakary Tandja de l'African Services Committee estime qu'il s'agit de demandeurs d'asile.
Des parents qui viennent demander l'asile à cause de la situation intolérable en Amérique centrale. Les gangs persécutent les populations. Les lois américaines permettent à toute personne persécutée de venir demander l'asile.
Là, en l'occurrence, il s'agit surtout de personnes qui n'ont pas formulé de demande d'asile.
Et nous savons que ces personnes viennent aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont persécutés. En traversant la frontière américaine, les autorités doivent leur faire une orientation pour leur expliquer les options qu'ils ont. Et beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés.
Alors l'administration Trump, elle estime de son côté que ce n'est pas parce qu'on a des enfants que la loi ne s'applique pas et que les migrants passant illégalement la frontière sont arrêtés, qu'ils soient accompagnés de mineurs ou pas. Qu'en dites-vous?
Ils viennent avec l'intention de demander l'asile politique. Et tout le monde sait que ces personnes-là sont persécutées par des gangs. Au moins, examiner leur situation en conformité avec la loi et dans des conditions humaines. Le fait de séparer un enfant de ses parents, si c'est pour punir les parents, on finit par causer un traumatisme à ses enfants, ce qui est inhumain. D'autant plus que le Parti républicain se considère comme un champion des valeurs familiales.
Les républicains devraient présenter la semaine prochaine deux propositions de loi sur l'immigration et le président Trump affirme que l'adoption d'une loi sur l'immigration devrait permettre d'adopter une solution à la séparation forcée des familles à la frontière. Est-ce que vous pensez que les démocrates et les républicains vont trouver un terrain d'entente?
Nous l'espérons, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, quelle que soit la loi qui va être adoptée, nous avons toujours lutté pour que ces lois soient des lois justes, des lois humaines.
Bakary Tandja de l'African Services Committee.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro.
Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nikki Ivanov. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.